Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Roman, oui. Policier aussi. Psychologique, certainement. Voici un ouvrage polymorphe, tenant en haleine et déconcertant le lecteur, qui pénètre dans une enquête particulièrement complexe, aux multiples ramifications et aux multiples personnages. Pour ces derniers d'ailleurs, l'auteur a pris le soin de présenter les plus importants avec un bref éclairage sur les liens qui les unissent, car comme dans la vraie vie, les relations entre ces individus sont nombreuses, entrecroisées et parfois inattendues, rendant une enquête d'autant plus difficile. Cet ouvrage s'intitule « Un jour comme les autres ». Il est édité chez HC Éditions et je suis heureuse d'accueillir son auteur Paul Colise. Paul Colise, bonjour.
Bonjour.
Je suis d'autant plus heureuse de vous accueillir, c'est que votre ouvrage m'a fort intéressée et vous venez de loin. Et vous venez d'une ville qui ne nous fait pas honneur.
Je viens du seul village de Belgique que tous les Français connaissent, en effet.
Oui, Waterloo, Morne-Plaine.
Oui, hélas, oui. Je présente mes excuses au peuple français pour habiter là-bas.
Oui, mais enfin, écoutez, grâce à vous, nous connaissons... Il y a un poème, Waterloo, Morne-Plaine,
oui.
Comme une... Vous connaissez, bien sûr,
oui,
vous
oui.
connaissez. Voilà.
Victor Hugo, mais Victor Hugo, je ne sais pas s'il est venu à Waterloo. On dit qu'il est venu, on dit qu'il n'est pas venu. Mais en fait, Waterloo n'est pas une plaine, mais c'est un plateau.
Ah oui.
Ah oui, oui, donc c'est intéressant.
Il faut dire la vérité.
Oui, il faut dire la vérité. Et en effet, donc, historiquement, quand la cavalerie française a fait sa charge, en fait, les Anglais étaient sous la butte, donc, enfin, étaient sous la pente.
On ne les voyait pas.
Voilà, exactement.
Et voilà. Voilà,
donc là, ils ont été surpris. Donc ce n'est pas vraiment une plaine, ce n'est pas vraiment une morne plaine, c'est plutôt un plateau. Mais bon.
Voilà.
On s'éloigne, on
voilà.
s'éloigne.
Bon,
on s'éloigne.
Alors revenons à votre roman. Et puis je me suis dit, mais dans le fond, à quoi bon? Je disais oui. Est-ce que c'est un roman policier? Pas seulement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais et je me dis qu'en fond, quelle importance de donner un genre. Parce qu'on a de plus en plus tendance justement à mélanger les genres, et c'est tant mieux. Parce que dans le fond, ça nous rapproche du foisonnement de la vie.
Oui, bon, et c'est vrai que cette étiquette que beaucoup de gens
veulent attribuer, oui.
Oui, veulent attribuer, et en effet, l'étiquette qu'on m'attribue le plus souvent, c'est inclassable ou atypique, ce qui me convient.
C'est pas mal, oui,
atypique,
oui je voilà. trouve.
Ce qui me convient assez bien, sauf que dans une librairie, il y a rarement un rayon inclassable ou atypique.
Mais enfin, je pense que vous êtes suffisamment connu maintenant parce que vous en êtes à 16 romans, j'ai compté, à votre actif,
oui.
Sans compter les collectifs, et vous avez obtenu pas moins de 7 prix. Je ne sais pas si c'est un chiffre exact, mais enfin, j'ai compté là aussi. Là.
Oui, c'est bien. Ouais.
Voilà. Alors, dans ce nouveau roman, vous commencez par de la musique. Beverly Sills, interprétant du Donizetti, avec beaucoup d'émotions d'ailleurs, ça suscite beaucoup d'émotions. Et je me suis dit, tiens, un éclairage d'emblée musical. Et effectivement, tout au long de votre ouvrage, il y a des repères musicaux.
Oui, c'est l'opéra. Alors, plus que les repères musicaux, il y a même la structure de l'opéra, puisque ce livre commence par une ouverture et est suivi de 4 actes, comme dans les opéras. Et comme dans les livrets d'opéra, on commence par la distribution des rôles. Et, donc, j'ai voulu respecter également ce principe-là. Et au début du livre, on a mis la distribution des rôles, c'est-à-dire tous les personnages, enfin les personnages principaux qui vont apparaître avec leurs
caractéristiques,
leur curriculum vitae restreint. Et certains lecteurs me disent, écoutez, ça nous aide beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de personnages dans
oui,
le
oui.
livre.
Oui, oui, merci. Merci d'avoir fait ça. Et c'est vrai qu'on se dit, dans le fond, maintenant que vous me dites ça, oui, il y a une sorte de diva, malgré tout, on va en parler, qui est une séductrice, une belle femme. Il y a Iago, hein, celui qui trahit, dans le fond, hein, qui trahit, enfin, qui ne fait pas honneur aux universitaires. Enfin, bon, de toute façon, on ne racontera pas la fin, je vous rassure.
Non,
hein, parce que là,
on ne va pas la raconter.
Voilà. Alors, oui, il y a des thèmes nombreux dans Un jour comme les autres. Donc, c'est le titre de votre ouvrage. À la fois sur la solitude, la disparition, l'attente, le travail d'enquête, sur le journalisme et son éthique, sur les circonvulsions, je dirais, de l'âme et de l'esprit. Enfin, qu'est-ce que vous privilégiez là-dedans?
Alors, ce que je privilégie là-dedans, c'est les personnages. Donc, on démarre avec un personnage qui est Émilie. Et puis, on va arriver à un deuxième personnage, un troisième, un quatrième, un cinquième. Bon, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même qui vont apparaître. Et tous sont connectés les uns aux autres.
Oui, bizarrement d'ailleurs. Hein. C'est vrai que parfois... Oui.
Ce qui n'apparaît pas à première vue, on dit mais qu'est-ce que celui-là vient faire ou qu'est-ce que celle-là vient faire dans l'histoire, ben, on va l'apprendre.
Oui.
Et donc, ils sont tous connectés. Bon, et donc, petit à petit, ça devient une immense toile d'araignée puisque chaque personnage est connecté à tous les autres.
Oui.
Où vont se connecter à tous les autres.
Mais c'est comme dans la vie, finalement.
Exactement.
Parce que souvent, dans les romans, bon, c'est très linéaire. Hein, voilà,
oui.
Tandis qu'effectivement, dans la vie, on a rencontré la fleuriste qui nous a présenté quelqu'un. Et puis voilà, peu importe.
Tout à fait. Et aussi, donc, quand un des personnages va faire quelque chose, va entamer une action, ça va avoir des répercussions sur les autres.
Oui. Oui,
donc c'est très amusant aussi à écrire. Donc si lui il décide d'aller à gauche plutôt qu'aller à droite, ça va avoir également un impact sur l'ensemble des personnages.
Oui. Alors disons, éclairons un petit peu nos lecteurs. Il s'agit d'une disparition.
Mm-hmm.
Voilà. Alors qui est Éric de Guide ?
Alors Éric de Guide, le disparu, est un professeur de droit universitaire. Donc professeur de droit international à l'université de Bruxelles. Il est assez jeune, il a 35 ans et il va disparaître du jour au lendemain. Donc un matin, il part à l'université, il a une réunion, il dit au revoir à sa compagne qui est Émilie. Il prend les clés de la voiture, il lui fait un signe de la main et il s'en va. C'est un jour comme les autres pour elle.
Dans votre ouvrage, d'ailleurs, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent.
Oui.
En Belgique, mais en France aussi,
Bien sûr,
un peu partout. Au Japon, il paraît qu'il y a même...
Les évaporés du Japon, oui, tout à fait.
Oui, oui, oui.
Et donc, en Belgique, il y a 5 disparitions par jour.
C'est qu'il y a beaucoup.
Mais 5 ou 10, j'en sais rien. Donc... Bien sûr, dans ces disparitions, il y en a beaucoup qui réapparaissent. Il y a des récidivistes, il y a des personnes âgées, il y a des démons. Il y en a qui font des grandes tournées de bars et qui rentrent après 2-3 jours relativement éméchés. Mais il y a aussi donc les disparitions dites inquiétantes qui représentent 3% des disparitions.
Voilà.
Inquiétante veut dire que ça ne sent pas bon dès le départ.
Oui. Alors, on peut dire quand même qu'il est défenseur des droits de l'homme et qu'il écrit également de temps en temps quelques articles dans un journal le soir. Voilà.
Tout à fait.
Alors, on pourrait lire le prologue. Je peux le lire.
Allons-y.
Il prit les clés de la voiture dans sa poche et jeta un coup d'œil dans sa direction. Elle n'avait rien remarqué. Et comme chaque matin, elle prenait son café en écoutant un air d'opéra. Plus d'une fois, il avait été tenté de tout lui raconter. À présent, sa décision était prise. Il ne reculerait pas et respecterait la promesse qui s'était faite. Il lui adressa un signe de la main et partit sans se retourner. D'emblée, Paul Collis, vous nous mettez la puce à l'oreille parce qu'il ne reculerait pas et respecterait la promesse. Et on se dit, tiens, c'est bizarre. Et il y a également en exergue une phrase de Jean Rostand que je ne connaissais pas. « L'amour supporte mieux l'absence ou la mort que le doute ou la trahison. » Voilà. Et c'est déjà tout le problème de cette pauvre Émilie, la compagne.
Exactement. Donc, la disparition est quelque chose d'épouvantable, en fait. La disparition d'un proche. Alors, quand un proche meurt, bien sûr, il y a la tristesse, il y a la détresse, il y a le chagrin, le désespoir. Et puis, on commence son processus de deuil. Quand une personne disparaît, on ne commence jamais son processus de deuil.
Ouais.
Et donc, ça, c'est la grande détresse des gens qui ont connu ou qui connaissent la disparition d'un proche, c'est qu'à aucun moment on ne peut commencer le processus de deuil. Et il y a toujours cette
ambivalence,
cette détresse de tous les jours. Donc, quand j'ai commencé le roman, je me suis intéressé aux disparitions. J'ai rencontré le commissaire de police qui s'occupe de la cellule des personnes disparues en Belgique. Et lui, bon, il m'a bien sûr documenté sur la façon dont ça se passe, sur les enquêtes, comment c'est mené, et aussi m'a documenté sur ce que ressentent les gens. Et ce que ressentent les gens, c'est exactement ça, c'est cette immense détresse de ne pas pouvoir commencer un processus de deuil et de vouloir savoir. On veut savoir, il n'y a rien à faire. Oui. Et donc, comme on ne sait pas, on échafaude des scénarios.
Oui,
bon, les premiers scénarios sont toujours bien sûr optimistes. Il s'est perdu, il a eu un malaise, il a peut-être eu un accident, il est dans un hôpital, on va le trouver, il a perdu ses papiers. Enfin bref, on commence toujours par des scénarios plutôt optimistes. Et puis, les jours passent et les scénarios deviennent de plus en plus noirs. Mais on ne sait toujours rien.
En même temps, elle, 2 ans après, elle oscille toujours entre espoir et désespoir.
Exactement, exactement. Comme bien souvent, ouais. Ça se passe chez les gens qui connaissent une disparition. On espère. Parce que c'est la seule possibilité de survivre, c'est d'espérer, d'avoir cet espoir. Et quand on n'espère plus, et ça c'est aussi quelque chose qu'il m'a appris, quand on n'espère plus, quand on dit « bon maintenant, ok, on a compris, il est mort », on veut voir le corps. Ça c'est très intéressant, cette notion de voir le corps.
Pour y croire.
Oui. Enfin, voir le corps pour dire « ok, maintenant c'est terminé, je peux commencer mon processus de deuil ». Et sinon, c'est pas possible. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est particulier. Bon, il y a eu pas mal. On a quand même, hélas, quelques histoires de disparition assez tragiques en Belgique. Et quand vous écoutez les gens, donc la mère, les mères, les pères, les parents d'enfants qui ont disparu, ils ont souvent cette phrase voir le corps. Ouais. Donc, pour dire ok, maintenant ça va, c'est terminé.
Oui, alors effectivement, on a beaucoup d'empathie avec Émilie dans ce cas-là, évidemment, parce que Émilie lui-même, elle-même, et on va en parler, parce que tous vos personnages, et c'est également l'attrait de votre roman, ne sont pas, comment dirais-je, monochrones.
Oui, exactement.
Ils ont vraiment de multiples aspects, et ça c'est intéressant également, en ce sens que, comme vous les présentez, par différentes personnes, à travers différentes personnes, le regard est différent. Alors, Émilie, bon, c'est une traductrice de son travail.
Oui.
Comment la présentez-vous ? Je vous dirai, moi, comment je la vois.
Oui, alors, donc, Émilie est une jeune femme. Elle est volontaire, elle est intelligente, elle est cultivée.
Séduisante.
Elle est séduisante, elle a énormément d'énergie. Et toute cette énergie, toute cette joie de vivre, tout cet enthousiasme, elle lutte pour ne pas sombrer dans la détresse. Et elle veut croire, parce que quand Eric réapparaîtra, elle veut être toujours aussi séduisante, belle, intelligente, cultivée. Donc il y a une lutte incessante chez elle, entre espoir et désespoir. Alors, ce qui est intéressant dans le travail que j'ai fait sur Émilie, c'est que vous avez dans un premier acte, il y a une présentation d'Émilie, la première personne, donc c'est le personnage principal, et dans l'acte 2, il y a une présentation d'Émilie par d'autres personnages. Et là, ça se passe comme dans la vie de tous les jours.
Oui.
C'est-à-dire que les gens ne vous voient pas de la même façon.
Absolument.
Et donc, on va voir apparaître Émilie avec une autre vision, d'autres perceptions de cette femme. Et ça, c'est exactement comme ça se
passe
dans la vie.
Mais même dans ses écrits, moi, je ne l'ai pas trouvé tellement sympathique. Mais
n'empêche, tout à fait.
Parce que je trouve que ses relations avec sa sœur, la pauvre sœur, mais elle l'assassine en mots, on va pas dire. Mais elle prétend dominer tout. Et on ressent un malaise. Mm-hmm. On se dit, elle n'est pas nette quand même, cette personne. Parce que chaque fois, elle repart de sa sœur en termes négatifs. Et elle est meilleure que sa sœur.
Oui, bon, écoutez, c'est la rivalité, comme ça se passe. Aussi, bien souvent, dans les familles, il y a des rivalités entre frères, entre sœurs.
C'est vrai.
Il y a des petites jalousies, il y a des... Voilà. Bon. Et donc, voilà, et donc, comme vous dites, rien n'est blanc, rien n'est noir. Il y a, et Émilie, bon, certaines personnes, certains lecteurs me disent « j'ai adoré », d'autres me disent « j'ai détesté ».
Moi, je ne la trouve pas, je la trouve pas. Oui, mais voilà, mais moi, voilà, moi, je l'ai... Il y a d'autres personnages dans votre livre que j'ai bien préféré. Elle, je trouve qu'elle n'est pas indulgente. Vous l'avez créée, d'ailleurs, avec les amis d'Éric, elle est pas très sympa.
Non, elle est pas sympa. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aucun lecteur m'a dit « oh non, elle m'est indifférente ».
On aime,
on n'aime pas, ou... Beaucoup de disent, j'ai commencé par l'aimer, puis je l'ai détesté, puis je l'ai nouveau.
Il y a plusieurs facettes. Voilà,
exactement. Il y a plusieurs facettes, et le lecteur va devoir choisir, bon, mais quelle est la facette que je prends ? Je l'aime pas, elle m'énerve, elle dit la vérité, elle ment, bon, on ne sait pas. On ne sait pas très bien, donc c'est un personnage complexe.
Oui, parce qu'à un moment donné, effectivement, les journalistes même, un journaliste va dire « elle ment ». Et là, on se dit « oula, ça y est, nous arrivons au cœur du soir, que nenni, on n'y est pas du tout, on va voir ». Mais en tout cas, oui, alors évidemment, elle est instable, on le sait, elle a eu un épisode dépressif, mais c'est assez banal ça. Elle a des cauchemars terribles et des envies peut-être de suicide à un moment donné. Comme à chaque fin de chapitre, il y a un petit point d'interrogation que moi, je rajoutais mentalement. Là, à un moment donné, elle prend un rasoir, on se dit, oula, qu'est-ce qui va se passer ?
Bon, et on ne le dit pas, en fait.
On ne le dit pas. Non. Vous n'en parlez pas. Et ce que j'ai dit hors antenne, c'est que vous laissez au lecteur le travail de réfléchir à tout cela.
Exactement.
Voilà. Alors, quant à Éric lui-même, parlons-en de ce disparu. Parce que lui aussi est très particulier. Parce que vu par les journalistes, vu par son collègue d'université, on pourra en parler, mais enfin, vu par son ex-épouse, oh, que de choses différentes.
Voilà. Donc, même chose. Alors, bon, bien sûr, la différence avec Éric de Guy, sorte de Don Quichotte des temps modernes, c'est que c'est une ombre. Donc, c'est une ombre. Il apparaît. Bon, c'est même un personnage très important, mais il n'est jamais là puisqu'il a disparu. Donc, on parle de lui. Il est dans le passé des personnages. Et de la même façon, eh bien, selon les personnes, c'est l'homme idéal, selon Émilie. C'est un emmerdeur, comme dit le rédacteur en chef du Soir. C'est quelqu'un d'irritant, c'est quelqu'un de fantastique.
Surdoué, généreux.
C'est un surdoué, c'est un brillant. Et tout le monde a sa vision personnelle de ce fameux Éric de Guitte. Et ça, c'est à nouveau, pour moi, c'est exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et vous avez par exemple, je trouve, une situation qui est marquante dans cette perception, dans les perceptions différentes des personnages, c'est quand vous avez un événement tragique, donc nous avons eu, dans la semaine écoulée, il y a eu deux tueries de masse, une en Nouvelle-Zélande, une en Hollande, et puis on identifie qui est le tueur, qui est l'assassin ou le suspect, puisqu'on ne dit jamais qu'il est... et puis on va s'intéresser à cette personne, on va découvrir son passé, et puis on va aller voir les voisins. Et là, c'est toujours...
C'est un gentil voisin.
C'est un homme charmant, gentil comme tout, poli, respectueux. Il essuyait ses pieds avant d'entrer, il disait bien bonjour. Nous sommes tellement surpris. Ça, c'est fantastique. Donc, vous avez un tueur de masse qui est présenté comme le gendre idéal quand on pose la question aux voisins.
Tout à fait. Alors, à un moment donné, quand même... il y a une indication très intéressante et je l'ai lue à deux reprises. Les derniers temps, il avait changé. Son humour avait fait place à du cynisme et de l'amertume. Son ton et son discours étaient de plus en plus agressifs, son comportement aussi. J'ai mis ça sur le compte du découragement. Malgré quelques avancées, ses requêtes restaient sans suite. Les gens abondaient dans son sens, s'indignaient, l'applaudissaient, mais gardaient les bras croisés. Alors, son humour a fait place à du cynisme, à de l'amertume. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe puisqu'on est dans le brouillard pour l'instant. Et c'est vrai que là aussi, on se dit, qu'est-ce qu'il est vraiment ? On se pose des questions.
Oui, tout à fait.
Alors.
Et là, il faudra encore lire 445 pages pour savoir, pour tout savoir.
Oui.
Bon, on va bien sûr, on va dévoiler un certain nombre de
petit
choses.
Petit à petit, il y a des voiles qui se soulèvent.
Voilà. Mais toutes les portes ne seront fermées qu'à la page 445.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que, oui, et le portrait que fait son épouse tout à fait à la fin de l'ouvrage. Et évidemment, alors qu'on est sur le point de savoir, je crois, ce qui s'est passé, ce n'est pas à son avantage.
Non.
Alors, donc, des personnages non stéréotypés, certains troublants, beaucoup troublants, et souvent, il y a des choses, il y a des petits événements. Bon, par exemple, Émilie, qui paraît très droite dans ses bottes, eh bien, elle est une adepte de la numérologie. Alors,
oui.
Pardon à ceux qui aiment la numérologie. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais bon, on se dit, tiens, c'est curieux. Mais elle aime le chant également. Il y a des scènes de la vie intime. Il y a des côtés chez elle qui adoucissent le portrait que j'ai pu faire tout à l'heure d'elle.
Mmh, tout à fait.
Voilà. On voit leurs points forts et leurs points faibles. Et puis, on se dit, grand Dieu, qu'est-ce qu'on dirait de nous ?
Oui, oui. Bon, mais, bon, il faut aussi se dire qu'elle est déboussolée, cette femme. Hein.
Oui.
Elle est complètement
oui.
déboussolée. Et de la même façon, donc, toujours dans cette... Dans les recherches que j'ai effectuées sur les personnes disparues et les réactions des proches, il y a ce besoin impérieux de se réfugier dans quelque chose.
Mmh.
Donc on n'a pas, on ne sait pas ce qu'est devenu la personne. On a échafaudé tous les scénarios possibles, imaginés. Il faut garder l'espoir. Et pour garder l'espoir, on va se réfugier dans quelque chose. Alors, la religion, par exemple. Hein, donc ceux qui sont croyants, ben, ils vont se réfugier dans la religion. Ceux qui ne sont pas croyants vont chercher autre chose. Et là, vous avez en effet... Oui. Tout ce qui est ouvert, la numérologie, l'astrologie, le sorcier vaudou, la cartomancienne, le marc de café, enfin, n'importe quoi, mais on veut...
Se raccrocher à quelque chose.
Ah, ouais, exactement, on veut se raccrocher à quelque chose. Émilie a choisi les chiffres.
Et elle a choisi un village également, en Italie, au bord du lac
Majeur,
oui. Que vous connaissez sans doute, moi je ne le connais pas.
Oui, je suis allé à Ranco, donc c'est là que j'ai commencé à écrire.
Ça n'a pas l'air mal.
Oui, c'est un très joli village, puisque donc, quand on dit lac Majeur, on imagine souvent donc, tous ces hôtels qui sont au bord du lac.
Mais il y a le petit village.
Voilà, bourré de touristes, et Ranco est au bord du lac. Mais c'est un village à peu près désert. Il y a un hôtel qui est un petit hôtel qui est, je sais pas, il y a une vingtaine de chambres. J'ai passé 10 jours là-bas. Et c'est vraiment un village où il y a toute l'ambiance italienne. Bon, il y a le lac, il y a la vue des montagnes derrière le lac. Il y a ce lac qui change de couleur sans cesse. Il y a cette brume qui apparaît à certains moments. Et je disais, l'ambiance est fantastique pour
hors saison.
Oui, hors saison. C'est toujours mieux hors saison. Hein.
Oui.
C'est toujours mieux hors saison. Oui.
Donc, là, l'action, votre roman évolue entre Ranco et Bruxelles.
Et puis, on vient à Bruxelles. Oui,
voilà.
On revient à Bruxelles.
Voilà. Alors, pour l'heure, si vous voulez bien, nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter, je pense que c'est votre choix, Philippe Stotford, qui chante Lully, Lula, Lulé.
Oui, et c'est un titre qui apparaît dans le roman.
Voilà.
C'est un titre que Émilie chante d'ailleurs. C'est un titre qui est chanté généralement a cappella par 4 voix et une 5e voix apparaît en fin d'œuvre. Et c'est Émilie qui dans le roman va faire cette 5e voix.
Nous écoutons quelques instants.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Oui, merci à Paul Collis de nous avoir permis d'écouter ce très beau morceau Louli, Loula, Lulé en un chœur a cappella. Philippe Stopford.
Philippe Stopford, qui est un compositeur.
De quelle époque?
Mais justement, c'est très très récent. Hein,
donc ah oui,
je crois que c'est 21e. 20 ou 21e siècle. Donc c'est
très récent.
Ouais. Alors on se dit, bah, ça c'est
un
morceau qui date de 1400. Non, non, pas du tout. C'est
très beau.
Récent. C'est très beau.
Voilà, oui, nous sommes. Je suis en compagnie de Paul Collis et nous parlons de son nouveau roman. Intitulé « Un jour comme les autres », présenté et édité par les éditions HC, Hervé Chopin. Et donc, nous parlons de tous ces personnages, car c'est un roman foisonnant, un roman dans lequel on se lance. Quand on voit la taille, on a un peu peur. Et en fait, non, il fait de chapitres courts. Donc, c'est très facile à lire, à prendre, à laisser, à reprendre. Et surtout, il y a un rythme. Et on est accroché. Hein. D'emblée, on est accroché. Et il y a des personnages, donc... Des personnages parfois douteux. Alors, on a parlé des deux personnages centraux, si je peux dire, puisqu'il y en a un qui est vraiment absent et qu'on ne reverra pas de sitôt. Et puis, il y a sa compagne qui, elle, est en souffrance, évidemment, vous l'avez dit. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnages dont certains, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont exactement? Bon, il y a un Michel Lambert qui a créé un forum sur les cold cases. En quelque sorte, hein, c'est
oui,
ça. Voilà. Alors lui, il est très malade, mais il paraît quand même assez perturbé. Il est séduit par Émilie, qui est séductrice, hein, disons-le. C'est une belle femme et lui, là, il est subjugué. Alors, celui-là va... Ils ont tous un rôle, en fait, tous.
Oui, oui.
Il y a le collègue de celui qui a disparu, d'Éric, qui... On sent quand même qu'il connaît des choses.
Il n'est pas net.
Il n'est pas net non plus.
Il n'est pas net non plus.
Il y a Axel, qui nous, a priori, nous paraît net. Et puis, il se passe quelque chose. Et puis, ils vont se dire, bah, tiens, celle-là aussi. vous nous amenez vraiment là en balade. Et puis, il y a un personnage également, Massimo. Et on pourra en parler, parce que lui, il a rencontré Émilie grâce à... une personne, professeur plus ou moins de chant dans le village en Italie. Et on se dit, tiens, quel est son rôle? Et lui aussi, on se dit, il a un mystère. Il a des mystères,
exactement,
d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Alors, il y a cela et d'autres encore. Et puis, il y a des personnages qui sont très attachants. Et je dois dire que vous avez fait vraiment un cadeau aux journalistes.
Oui, ah oui, 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 bien sûr. Alain Lallemand et Frédéric Peters.
Voilà.
Avec eux, ça fonctionne en principe. Hein. Donc eux, ils sont plus nets.
Bon, ah oui.
On sait qui c'est, on sait où ils veulent aller. Même si Fred a quelques blessures, hein, il traîne aussi quelques casseroles derrière lui. Mais globalement, c'est vrai qu'ils sont plus, on les apprécie mieux.
Oui. Bon, alors évidemment, Alain. Vous faites le portrait d'un homme, c'est marrant. J'ai pensé, je ne sais pas si vous connaissez, Lazareff.
Pierre Lazareff.
Pierre Lazareff, qui avait, alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait comme journal, mais surtout, il a créé Cinq colonnes à la
Cinq
une,
colonnes
qui
à
était
la une,
une émission mythique française.
Oui.
C'est un pro, sérieux, calme, expérimenté, tenace.
Oui.
Et Alain, oui, ça a l'air d'être vraiment le... Le pilier.
Oui, alors bon, là, je n'ai aucun mérite puisque Alain Lallemand existe.
Ah.
Alain Lallemand existe, il est journaliste d'investigation au Soir.
D'accord.
Et il joue son propre rôle dans le bouquin. Donc c'est exactement lui. C'est lui-même qui m'a donné toutes les ficelles
tous les trucs du métier.
Et j'ai eu qu'à l'observer, à l'écouter. Et donc, et il est exactement, donc à part, je lui ai ajouté un tic assez amusant, puisque dans le roman, vous avez, ceux qui vont lire vont voir qu'il nettoie ses lunettes à longueur de temps, ce que le vrai Alain Lallemand ne fait pas. Mais hormis ce clin d'œil, c'est lui. C'est lui, donc c'est ce journaliste d'investigation au Soir, qui a eu d'ailleurs, qui a reçu le prix Pulitzer pour un collectif un collectif d'enquêteurs.
Oui, grand prix journalistique.
Exactement. Ouais. Et donc, c'est lui qui m'a accompagné. C'est lui qui m'a accompagné dans la rédaction par rapport à tout ce qui concerne le journalisme d'investigation.
D'accord. Alors, l'autre journaliste, qui n'est pas le grand patron, c'est Fred. Son bras droit. Oui. Alors, évidemment, c'est son contraire, mais en même temps, c'est très bien cette équipe-là, oui. Dans le fond. L'un tempère et donne des indications quand même. Hein. Et l'autre, bon, moi je l'aime beaucoup, il est original, il est fantaisiste, ouais. Il dit parfois des bêtises, il fait des bêtises, bien il sûr. En a fait, en tout cas. Ouais. Il est maladroit, il perd tout, toujours en retard, mais il a le flair.
Exactement, donc hein, c'est la notion de chasseur et d'éleveur. Hein.
Oui.
Donc
oui,
Alain, c'est l'éleveur, c'est lui qui va préparer le terrain.
Qui est stable.
Lui, ouais, qui est stable, qui prend du recul, qui analyse les choses, qui fait du fact-checking, comme il dit lui-même. Hein. Donc, qui collationne les faits, qui dit « ne nous emballons pas, regardons ça, on va décortiquer, on va voir. Bon. » Et l'autre, il fonce. Hein. Il fonce... tête baissée parfois, mais Alain Lallemand sent que c'est exactement le journaliste d'investigation qu'il lui faut, c'est-à-dire un jeune type complètement fougueux, et il se reconnaît finalement, il se reconnaît dans...
Peut-être dans quand il était jeune.
Voilà, quand il était jeune et qu'il fouillait les poubelles pour essayer de trouver des indices. Donc c'est exactement ça, donc, c'est-à-dire, il dit « ok ». Il est fougueux, mais je vais je vais le calmer, je vais le cadrer.
Oui, alors oui, il a cette sympathie des lecteurs, je pense. Alors qu'on sait que il a eu des problèmes avec sa famille. Il a un caractère peut-être un peu entier, un peu fougueux, comme vous dites, un peu remettant en question toutes les conventions d'usage, je ne sais pas. Évidemment, avec sa belle famille, c'est pas l'entente cordiale.
Non.
Et c'est assez drôle parce qu'en fait, il est très entier aussi.
Oui.
Mais on aime bien le couple qu'il fait aussi avec cette Camille qui est solide, un peu comme Alain, dans le fond.
Oui, Camille, c'est ça. Donc Camille, qui est une femme extrêmement positive.
Oui.
Qui voit la vie, qui voit toujours les bons côtés de la vie, qui sait faire la différence entre les avantages et les inconvénients et favoriser les avantages, entre les qualités et les défauts, de favoriser les qualités. Donc c'est une femme entière et c'est une femme qui est ancrée sur un, je ne veux pas dire pas le passé, mais les réseaux sociaux, ça sert à rien. Elle le dit elle-même. Les gens qui existent n'ont pas besoin de dire qu'ils existent. Bon, toutes ces technologies, ça fait perdre du temps.
Plein de bon sens.
Voilà. Le vrai bonheur n'est pas là, quoi. Donc, les gens confondent plaisir et bonheur. Donc, le vrai bonheur, c'est autre chose. C'est la culture, c'est la musique, c'est l'amour. Donc, un peu idéaliste. Elle lui colle bien. Elle colle bien à lui qui est un geek. Et qui, avec
elle
tous
lui
ses,
apporte un équilibre.
Exactement, exactement.
Ouais. Oui, c'est un couple sympathique. Alors l'enquête, voilà, il se trouve que la police est en panne. Ça fait plus de deux ans que cet homme a disparu et la police a l'air d'avoir renoncé. Et eux vont reprendre le travail
d'enquête.
Alors, on a parlé, de Pierre Lazareff parce qu'il y a une éthique professionnelle.
Oui.
Et je pense que vous pourriez nous lire peut-être un extrait pas trop long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Si vous voulez, à la page 183 et peut-être à moitié de la page 184, pardon.
Alors, 183.
Voilà. Oui, sur le travail des journalistes.
Oui, tout à fait. Donc, qui est vraiment... Cette partie-là est vraiment issue de
vos observations.
Des entretiens et des observations que j'ai avec lui. Donc, en plus de 30 ans de journalisme, donc on parle d'Alain Lallemand, il s'était créé un réseau d'indicateurs aussi performants qu'éclectiques. Détectives privés, policiers, avocats, chauffeurs de taxi, coiffeurs, masseuses, tenanciers de bar. La plupart du temps, il ne devait pas se donner la peine de les contacter. Les renseignements lui étaient remis spontanément. Tout était là. Les déclarations d'Émilie d'Anjou et d'autres témoins, les procès-verbaux de l'enquête de voisinage, les auditions des proches, le rapport de téléphonie, les comptes rendus des réunions du parquet. Une note émanant de la cellule des personnes disparues reprenait les actes d'enquête et la liste des recherches potentielles. il y a appris la différence entre le PLS et le LKP. Oui, donc ça c'est technique, mais c'est
oui,
aussi intéressant.
Fait,
donc le PLS, donc ça vient de la personne, de la cellule des personnes disparues. Le PLS, c'est le Point Last Seen, c'est l'endroit où la personne avait été vue avec certitude fois. Pour la dernière fois, dans le cas présent, le hall de l'immeuble où habitait Emily. Une locataire affirmait avoir croisé Eric de Guit le 14 novembre 2014 vers 8h35. Émilie avait, quant à elle, déclaré qu'il avait quitté l'appartement à 8h30. Le LKP, Last Known Position, était l'endroit où l'on supposait que la personne s'était trouvée en dernier lieu. En l'occurrence, l'aéroport de Zaventem, où son véhicule avait été retrouvé 5 jours plus tard, le 19 novembre 2014.
Voilà, alors un extrait, et alors, juste, pardon, si...
Oui.
Je vous reprends l'ouvrage parce que il y a également un petit passage qui me paraît important sur ces deux journalistes. Leur approche du métier était différente. Autant il était capable de mener une enquête de longue haleine en prenant le temps de collecter des faits au compte-gouttes. Oh, il s'agit évidemment de d'Alain. Autant Fred était motivé par la course à la parution. Ses années au web l'avaient soumis à la dictature de l'immédiateté.
Tout à fait.
Eh oui. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup comme ça.
Alors, c'est exactement le grand problème du journalisme d'aujourd'hui. C'est que tout va très, très vite. Et vous avez une course à la une.
Oui.
Donc, c'est-à-dire...
Avec le risque de ne pas vérifier.
Exactement. Alors, donc, vous avez la vieille école... Alain Lallemand, c'est on ne sort rien sans avoir fait ce qu'il appelle justement le fact-checking, donc c'est-à-dire le contrôle des faits. Donc, et on croise les faits, on les additionne, et quand on est sûr à 80, 90, 95% que l'information est correcte, on publie. Mais hélas, aujourd'hui, dans cette course à la une, certaines télévisions, certaines radios, certains titres, on publie, et puis on verra bien.
On verra bien.
On verra bien. Oui. Et donc, entre autres...
Et ce qui est dit reste le problème, malgré
alors,
les...
Justement, donc, dans le web, donc, ça, c'est les journaux en ligne, on change.
Oui.
Donc, vous mettez une... Et puis, bon, 20 minutes plus tard ou 15 minutes plus tard ou 3 minutes plus tard, on dit non, c'est pas tout à fait ça. Ben, c'est pas grave, on change.
Ouais, mais dans l'esprit des gens.
Ouais. Quand vous avez le papier, le journal, celui-là, c'est différent.
Bon.
Donc, il y a cette opposition, ces deux formes de journalisme, l'ancienne école, la nouvelle école.
Ouais.
Et donc, bien sûr, Alain est de l'ancienne école, Fred est de la nouvelle école. Mais dans le journalisme d'investigation, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
Ouais.
Et dans le fond, ce livre est un marathon.
Absolument.
Dans le sens où le lecteur est le journaliste d'investigation.
Oui, c'est pas effectivement dans la rapidité, mais dans
non,
le temps.
Exactement.
Alors, et c'est également dans le danger, parce qu'à un moment donné, on sent que Alain s'inquiète pour son journaliste. En y réfléchissant, moi j'ai appris qu'il y avait eu 80 journalistes tués dans le monde en 2018.
Exactement.
Oui, et que déjà en 2019, il y en a 5 de tués, d'autres emprisonnés, enfin énormément d'ailleurs emprisonnés. Voilà. Alors, donc. Effectivement, on se dit que à fouiner comme ça, Fred risque sa vie, et on se pose des questions aussi. D'où va venir le danger ? On ne sait pas. On croit progresser, puis soudain on est au point mort. Eric, le disparu, nous semble un type bien, puis on a des doutes. C'est vrai que l'enquête n'est jamais linéaire. Hein. Il y a des ramifications, retours au point de départ. Et puis on voit Eric dans différents endroits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Alors, il y a beaucoup de pistes. Alors moi, j'ai appris donc qu'il y avait un site internet spécialisé dans les disparitions. Ça existe, ça?
Bien sûr. Oui.
Là, c'est donc Michel Lambert,
oui.
qui est très, un peu particulier. Et là, tout le monde peut y aller.
Oui, donc c'est un site qui traite des affaires criminelles belges et en particulier des tueurs du Brabant wallon, Donc, eh bien, quand je parle des tueurs du Brabant wallon en France, on me regarde en disant qu'est-ce que c'est que ça. Bon, en Belgique, c'est une affaire que tout le monde connaît. Donc, les tueries du Brabant, c'est une bande de 4, 5, on ne sait pas très bien combien ils étaient, 4, 5, 3, 4, 5, 6 personnes qui entraient dans les supermarchés le vendredi soir et tuaient.
Mais en quelle année ?
Alors, il y a eu une première vague en 82, une seconde vague en 85. Et ils ont laissé 30 morts derrière eux, plus un tas de blessés. Et donc, c'était gratuit. Donc, gratuit, puisqu'ils partaient quasiment sans argent, sans rien du tout. Et donc, aujourd'hui, 2019, on ne sait toujours pas qui sont ces gens, quels étaient leurs mobiles. Et toutes les théories, bien sûr, ont été évoquées, mais on ne sait toujours pas. Et donc, ce site sur la tuerie du Brabant est très actif, donc c'est-à-dire que tous les jours...
Chacun amène son hypothèse.
Chacun amène une pièce.
Une pièce
du puzzle, on a entendu. Bon, et on dirait qu'il y a des rebondissements tous les jours sur ce dossier.
Voilà, alors nous allons écouter. Et là, nous changeons tout à fait de registre. On va écouter les Stones avec Little Baby.
You go to jail, I blow your bones. You get time, I tell you what I do. Stay outside and wait for you. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you, little baby. Your life that I walk with you. You go and I come with you, little baby. You go to church, I go there too. You go to work, I tell you what I do. You get paid, I hold the money. I'll be right there behind you, honey. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you, little baby. You go and I come with you. You bet your life that I won't quit you. You go and I come with you, little baby. All right.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Oui, c'est Fred, ce personnage du roman de Un jour comme les autres de Paul Collins. C'est Fred, ce journaliste fougueux, jeune, qui écoute les Stones. Et merci, parce que finalement, c'est vrai que ça met du rythme, de la jeunesse, puis on aime bien les Stones. Et alors, je suis en compagnie de Paul Collins. Et donc, on voit que cours de l'enquête, il y a des rebondissements et des interrogations que l'on va, comme dans une enquête, rien n'est comme ça. Mais bien, c'est bien sûr, c'est bien vrai, comme faisait un commissaire bien connu au cinéma.
Mais c'est bien sûr.
Oui, voilà. Alors, on voit qu'il y a de nombreuses pistes et on voit que tout demande énormément de travail, d'investigation, de recherche et au prix parfois de danger. Alors évidemment, ce qu'il y a de troublant, c'est qu'il y a des informateurs, on ne sait pas s'ils sont honnêtes ou pas. Il y a un mystère, entre autres, plusieurs, comment la voiture d'Eric est entrée dans un parking de l'aéroport comme ça, alors que le jour même, elle n'y est pas entrée. On devine que les gens ne disent pas tout, que certains personnages même cachent des choses. Bon, peur, oubli, honte. Donc, différents rebondissements. Et puis, il y a, je dirais, une affaire dans l'affaire. Vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs affaires, mais quand même, là, il y a une affaire dans l'affaire. Il y a Massimo, cet étrange personnage.
Mmh, oui.
Alors, lui, qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce qu'il est connu surtout à travers ses lettres.
Alors, Massimo, il apparaît sous trois formes différentes. Il apparaît d'abord sous forme de dialogue. Dans l'acte 1, il dialogue avec Émilie. D'abord, on ne sait pas, au départ, le lecteur ne saura pas qui parle. Et puis, petit à petit, on va savoir qu'un des personnages, c'est Émilie, que l'autre s'appelle Massimo, mais on n'en sait pas plus. Et donc, petit à petit, on va apprendre à connaître Massimo, mais uniquement par ce qu'il dit. Et ça semble être un homme plein de bon sens, qui est à l'écoute. Oui. Qui est généreux, qui est sage. Donc, alors dans l'acte 2, dans l'acte suivant, on va découvrir Massimo à travers des lettres, puisqu'il va raconter...
Il se confesse.
Il se confesse, donc, exactement. Donc, c'est le retour, dans un premier temps, c'est plutôt Émilie qui se confesse à lui. Dans un deuxième temps, c'est lui qui se confesse à Émilie, mais il le fait par lettres. Et comme il est italien, on va petit à petit... il écrit en français, ses lettres sont écrites en français, mais avec un style un peu désuet, ce qui peut d'abord un peu perturber le lecteur en disant « mais il écrit comme au XVIIIe siècle, ce type-là ».
Il écrit bien.
Ouais, il écrit pas mal, oui, mais c'est assez suranné.
Oui, oui,
quoi, donc,
tout à fait.
Et petit à petit, il va raconter sa vie, et puis on va apprendre qui il est, quelle est sa fonction... Quel est son passé? Quelle est son histoire? Donc on va découvrir qui est Massimo, qui est un personnage clé dans le roman, et qui semble absolument pas clé, mais quand on va voir l'influence de Massimo et tout ce qui va se déclencher autour de Massimo, on va voir que finalement c'est un personnage clé.
Parce qu'on peut le dire. On peut le dire ou vous avez...
Vous pouvez le dire,
parce que c'est
sûr,
un prêtre.
Hein. C'est un prêtre.
Il a été appelé à de hautes fonctions, d'ailleurs.
Il a été jusqu'à Rome.
Jusqu'à Rome.
Au Vatican, même.
Voilà.
Oui.
Mais il est tombé amoureux d'une femme.
Ben oui, voilà.
Voilà. Et c'est ce qui a précipité son éloignement, disons.
Exactement,
je ne vais pas dire sa chute, son éloignement de la prêtrise. Et il a gardé quand même, on ne va pas tout raconter, mais il a gardé quand même cette sagesse, effectivement. Il est de bons conseils auprès d'Émilie. C'est un recours pour elle.
Alors oui, pour elle, c'est un recours. Alors, donc ça, c'est aussi intéressant, puisque donc dans le lecteur peut se dire, mais là, Émilie, d'un côté, elle dit ça, de l'autre côté, elle dit ça. On dit, bon. Donc, il y a plusieurs facettes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tout ce que Émilie dit à Massimo, c'est la vérité.
Ouais, c'est
donc
ça.
Il y a un pacte entre eux, c'est je lui dis toute la vérité. Donc si vous hésitez, si le lecteur dit oui, mais ça c'est vrai ou c'est pas vrai,
reportez-vous.
Qu'est-ce qu'elle a dit à Massimo?
Voilà.
Et Massimo, c'est l'étalon. C'est lui, avec lui, elle ne triche pas.
Alors avant toute chose, je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup de notes d'humour. J'ai relevé, je vous le disais tout à l'heure, les propos de la Calas que vous citez, qui disait qu'elle ne chantait bien qu'un jour sur quatre, et alors personne n'est parfait, agitait-on, sur les éloges funèbres, qui sont toujours élogieux, malgré le passé des personnes dont on fait les éloges. Alors moi, j'aimerais savoir, avant de nous quitter, est-ce que vous vous inspirez de l'actualité de personnages existants? Vous avez déjà répondu en partie,
oui,
puisqu'il y a un journaliste qui existe.
Oui, Michel Lambert existe aussi.
Oui.
Michel Lambert existe aussi. Donc, il y a plusieurs personnages qui sont dans le roman et qui existent dans la vie de tous les jours, que je connais. Il y en a d'autres que j'ai créés, entre guillemets, hein, si vous me permettez d'utiliser ce verbe, mais que j'ai en effet des personnages que j'ai imaginés qui sont fictifs.
Voilà. Alors, il y a à chaque, j'avais dit, des chapitres courts, rythmés. À chaque chapitre alternent les personnages. Et entre chaque chapitre, il y a un court monologue ou dialogue. Par exemple, vous croyez en Dieu? Question. On ne sait pas si c'est Massimo. C'est peut-être Massimo.
On ne sait pas.
On peut se poser la question. Vous faites travailler le lecteur, je vous le dis. Et parfois, c'est un personnage qui parle à la première personne, qui parle. D'autres fois, non. Et puis, à la fin de chaque chapitre, il y a une sorte de suspense, une attente, un événement. Voilà. Bon, tout cela fait que on lit votre livre jusqu'au bout. Voilà un livre. Et parfois, je vais vous dire, parfois les lecteurs sont un peu effrayés par la taille des livres.
Oui.
Mais là, je peux dire que finalement, il se lit fort bien.
Non,
fort
tant mieux. Oui, voilà. Alors en effet, donc, dans les chapitres, entre chaque chapitre, je donne des pièces du puzzle finalement. Donc je dis au lecteur, écoutez, vous voulez savoir ce que c'est le journalisme d'investigation, eh bien, à vous à jouer. Donc c'est-à-dire qu'ils reçoivent une lettre, ils reçoivent un monologue, ils reçoivent un article de journal, ils reçoivent parfois billet avec des chiffres.
Il y a des pièces.
Enfin, ce sont des pièces. Eh bien, c'est exactement comme le journaliste d'investigation qui va gratouiller à gauche et à droite, qui va recueillir quelques pièces et dit, bon, mais maintenant, où va cette pièce dans l'ensemble?
Voilà.
Et c'est le lecteur qui doit faire ce travail.
Donc, c'est un bon exercice pour l'esprit. À vous de le lire. Et je remercie, alors Paul Colis, un grand merci d'être
merci
venu
beaucoup.
Jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Un jour comme les autres, paru aux éditions HC. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.